Dans 80 000. Bon, en tout cas, ça, il se fait désirer, mon copain Caporne, parce que c'est pas gratos d'aller vers lui. Hein. Ah, le cochon là jusqu'au bout. Hein. Je me suis fait empétoler ce matin. J'étais dégoûté parce que je suivais attentivement l'évolution des fichiers, la météo, etc. Pour pas me faire avoir. Et puis, bah, écoute, à un moment, le vent mollit complètement. Et je vérifie le fichier, non, c'est pas ça. J'essaie de comprendre un petit peu l'origine de ce dégent. Je recharge un fichier et en fait, la prévision est complètement évoluée. Et en fait, j'étais au cœur de la pétanque. En 2-3 heures, je suis passé de force 8 à force 0, quoi. Tu sais, je faisais mes ETA, mes calculs, trajectoire d'empannage et tout avec un vent un peu mollissant. Je te retrouve avec les vagues, les voiles qui battent et tout. C'est pour ça que je disais que c'est une approche longue. Ça fait maintenant 48 heures que j'ai l'impression que j'arrive au Cap Horn. Bon, il semblerait que là, je suis à 90 000 ou 100 000. C'est pour de vrai, là. Je pousse un petit peu encore au sud. Ce sera mon point le plus sud de tout le Vendée Globe. Ensuite, j'empanne. Alors, la très bonne nouvelle, quand même, parce qu'il y a quand même toujours du positif dans toutes les situations, c'est que les conditions sont très favorables pour que je puisse passer près du phare. Donc, je ne vais pas m'en priver. Hein. Je vais passer à 2000 très, très bien. Et puis je vais y être en heure solaire. Tu vois, il fera midi. Ça va être un moment assez singulier. Donc, il me reste un empannage en 30 nœuds de vent. Bah, j'en ai eu une sacrée collection d'empannages dans des conditions super dures dans l'océan Pacifique. Et c'est pas ce que je préfère. Le moment où la grand voile passe et que tu as l'impression que tu vas éclater toutes tes lattes, même avec toutes les précautions du monde. Bah, allez, encore un petit dernier pour la route. Et puis voilà, donc ça va être une belle journée. Puis j'ai hâte de retrouver, j'avoue que là, bon, ça va être un moment mythique pour moi, forcément, de passer de ce Cap Horn, de pouvoir bien en profiter. Et puis ensuite, j'avoue que faire du nord pour faire remonter le thermomètre, ça sera pas de refus, parce que là, j'ai approché du Cap Horn avec du vent de sud, sud-ouest, qui est un vent glacial, en fait. Le froid, c'est bien, hein, c'est tonique, c'est bon pour la santé et tout, c'est vivifiant, mais maintenant, un petit peu de chaud, ça sera pas de refus. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'avoir l'onglet quand je fais des manœuvres sur le pont et de devoir mettre des gants. Je mets quand même des gants pour dormir dans ma cabine parce que bon, tout est trempé, humide, machin, et j'essaie de m'étouffer dans le duvet. Et la seule chose qui dépassait du duvet, c'est mes mains. Et comme il fait 5-6 degrés dans la cabine, bah, quand tu dors avec les mains 5-6, t'as froid aux mains, quoi. Donc je me retrouve, c'est assez spécial. J'ai un protocole quand je me couche. Ça finit par les petits gants polaires pour pas avoir l'onglet en dormant, sympa. Aventure suivante pour moi, ça va être de guetter un moment de calme propice ou encore, je sais pas, pour remonter dans mon mar au temps de mon gréement, parce que ça fait maintenant 10 bonnes journées que je dois le faire, mais dans le Pacifique c'était juste infaisable. Donc ça fait maintenant 10 jours que je navigue en retrait par rapport au potentiel du bateau. Alors, quand j'étais sous Trois-Ries, que je viens de dire, n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que, de toute façon, quand on est sous Trois-Ries, là, j'avais pas de problème de tenue de mât. Et vu que j'ai passé une semaine sous Trois-Ries, voilà, en toute objectivité, j'ai pas été grandement handicapé par mon gréement. Mais là, tu vois que c'est des conditions beaucoup plus maniables. Là, c'est pénalisant parce que dans l'instant, je suis à 70% de ma polaire et je peux pas relancer de la toile en haut du mât tant que j'ai pas retendu. Parce que ce qui s'est détendu, c'est en haut de mât. Enfin, c'est au cap-plage, donc presque en haut. D'être tout le temps en train de naviguer en retrait avec un petit peu la peur au ventre, tout le temps en train de surveiller le mât, c'est usant, nerveusement. Donc il y a l'envie de retrouver la vitesse, mais il y a l'envie de retrouver la sérénité aussi. Alors pourtant, je déteste monter au mât, mais là j'ai hâte. Hein. J'ai hâte, je me vois avec ma clé de 19, là, crac, crac, deux tours sur chaque ridoir. Vite fait, bien fait, allez hop, je redescends, même pas le temps d'avoir le vertige, et c'est reparti mon kiki. Moi, toi, Non, mais là, la houle du Pacifique, c'était quand même un truc de dingue, parce que à un moment, dans un calme, j'ai presque osé l'imaginer, mais je me suis réveillé en me pinçant, en disant, mais tu sais, mon bonhomme, là, ça amollit, mais c'est relatif, hein, il y a 4 mètres de houle, donc pas de montée au mât avec 4 mètres de houle. On va laisser ça à des cascadeurs, moi, je fais pas ça, moi. C'était usant physiquement, et c'était usant nerveusement, et cette cartouche a succédé à plein d'autres. J'ai enchaîné pendant 15 jours des fronts et des passages de vent fort. Et donc, du 45 nœuds, ça va bien. Mais à un moment, quand on attaquait les 60, donc c'est énormément de manœuvres, parce que bah, je joue le jeu. Hein, je suis où je suis dans le classement, mais c'est justifié par tout un tas d'explications, mais en tout cas pas le fait de pas me battre, hein, parce que au contraire, il faut envoyer de la toile, je renvoie de la toile, quand il faut empanner, j'empanne, etc. Donc je suis vraiment dessus. Et ce qui faisait que y a eu plein de transitions, je me rappelle avant la grosse cartouche, j'ai eu 35-2 une nuit, donc ça s'était terminé 35-40, tu vois, avec 3 riz solent, 3 riz J3, 3 riz trinquette. Et puis le vent est redescendu à 20 nœuds pendant 12 heures. Et donc j'ai fait tous les intermédiaires, tu vois. Riz 1, J2, Genaker. Et puis il a fallu repartir dans l'autre sens. Et riz 2, riz 3. Et donc, j'ai fait le calcul en 24 heures, mais c'était insensé, en fait. J'avais pris 10 fois ou relâché 10 fois des riz, j'avais changé 4 fois de voile d'avant. C'est usant, donc je suis rentré fatigué dans la cartouche. Et puis, c'est physiquement terrible, quoi. J'arrivais même pas à dormir, je me faisais éjecter de ma banette. De toute façon, même, j'avais pas du tout le cœur à dormir. Il y avait matière à avoir peur, franchement. C'était des espèces d'immeubles dont certaines vagues qui déferlaient. J'étais sur 7,50 mètres de fichier quand même de vagues. 7,50 mètres, c'est la hauteur, c'est la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Donc quand tu es sur 7,50 mètres de fichier, et donc là, c'est pas des inventions, c'est pas des trucs de comptoir pour éclater la galerie, c'était des... C'est facile de retrouver ces données-là. Et ben, ça veut dire quand il y a 7,50 mètres fichier, on en voit régulièrement à 10 mètres. Et c'est pas la détente, hein, de voir ça, quoi. Là, je me disais, putain, il est pas petit, mon bateau, mais alors là, il faisait vraiment très, très petit, quoi. Hein. Très, 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 très petit. Et j'ai dire, dans ma cabine, j'ai un hublot qui me permet de regarder sur l'avant. Et à la fin, au plus fort, je regardais plus sur l'avant, en fait. Parce que ça me faisait trop peur. Vous voyez, j'étais sous tourmentin 3 riz, tu vois, je pouvais plus réduire. Ou alors, fallait affaler. Mais si j'affalais, je me faisais rouler par les vagues. Hein. Tu vois, il fallait que je garde de la puissance pour pouvoir me balader entre les vagues. Et quand je regardais sur l'avant, je voyais le bateau qui se faisait, je me faisais choper par l'arrière. Je sais pas combien je pouvais prendre d'angulation longitudinale, mais ça pouvait aller à 20-30 degrés, je pense. Tous les 10 secondes à chaque vague, tu vois, t'as le cœur qui s'emballe, tu dis bon, je regarde plus devant. Donc j'ai un petit hublot aussi qui me permet de regarder derrière. Et là, après, je me suis dit je regarde plus derrière non plus. Parce que parfois, je passais la tête et je voyais une espèce de montagne qui venait s'abattre sur le cockpit. Puis il y a des moments où je sortais carrément plus parce que c'était vraiment trop violent. À un moment, je suis sorti, tu vois, juste pour la petite histoire. J'ai cru voir une accalmie relative. Puis bon, je sortais quand même, évidemment, pour vérifier que tout allait bien. Et là, je fais pas gaffe. Je reste dans le cockpit. Hein, je tiens à dire, j'allais pas sur le pont en ces conditions-là. Et puis, j'étais en train de régler un truc, je sais pas quoi, un bout. Puis j'entends un grondement. Juste le temps de me jeter contre le panneau et de me tenir. Et là, la vague a éclaté, quoi. Il faut imaginer la scène, quoi. T'es dans le cockpit et tu tournes et t'as une montagne qui vient s'abattre dans le bateau et qui remplit entièrement le cockpit. Donc, je me suis retrouvé, en fait, dans l'eau, dans le cockpit. Je dis, ah ouais. Ah ouais, elle est bien, l'ambiance. Tout ça pour dire que ce sont des conditions dantesques qui sont usantes physiquement. Puis nerveusement, franchement, je suis allé chercher loin. Voilà. Je serais curieux d'avoir une stat, tu vois, des météos rencontrés sur ce Vendée Globe. Eh ben, je regarde un peu ce qu'ont les autres. Hein. Il me semble, mais ça serait rigolo de le regarder si je dis pas des conneries, que je suis celui qui a eu le plus de petits temps, ou un de ceux, en tout cas, le top, on va dire le top 2-3 de la pétole. J'ai quand même eu 4 jours de pétole dans l'Indien. Hein. Et je pense que je suis le record aussi du gros temps. Parce que Cali et Alan, ils ont aussi pris une cartouche dans le même genre un peu avant moi, mais elle était un peu moins forte. Et ils avaient surtout moins de vagues. Et moi, j'ai eu celle-là. J'ai eu aussi la cartouche en Tasmanie. J'ai eu la dépression tropicale en Afrique du Sud. Enfin, si on cumule, honnêtement, je pense que c'est pour moi le Vendée Globe de tous les contrastes. Je pense que voilà, j'aurais touché les extrêmes.